Ben écoutez, je vous souhaite la bienvenue à cette activité, donc cet entretien avec Lionel Ruffel, qui est juste à ma gauche et que je suis très content d'accueillir. Juste avant qu'on commence cet entretien, donc on a prévu en fait autour de 40 minutes d'entretien. Évidemment, on va commencer par, je vais poser un certain nombre de questions à Lionel au sujet du livre qu'il vient de faire paraître cet hiver chez Verdier, donc en 2016, intitulé Brouhaha, les mondes du contemporain. Mais évidemment, si vous voulez vous aussi poser des questions, vous n'hésitez pas, vous levez la main, vous vous manifestez, et puis on espère que Lionel répondra. Avant de commencer quand même, avant d'introduire Lionel et de lui poser en fait les premières questions sur son essai, j'aimerais quand même vous dire que l'activité de ce soir s'inscrit dans le cadre d'un ensemble d'activités autour du colloque que nous organisons et qui commence demain matin, qui s'intitule Narration contemporaine, écran, médias et documents, qui est un colloque bilingue qu'on organise dans le cadre à la fois la chaire de recherche du Canada sur les arts et les littératures numériques, de même que dans le cadre du LINCS, donc le Leverhulme International Network for Contemporary Studies, dont Margaret Anne Hutton est la responsable. Donc, ensemble, nous avons organisé cet ensemble d'activités qui s'ouvrent ce soir avec cet entretien avec Lionel. Demain et après-demain, il y a le colloque qui a lieu à l'UQAM. En soirée, le vendredi soir, nous avons un événement bleu-orange. Donc, nous avons une série de lectures et de performances liant littérature et le numérique. Passons maintenant à cet entretien avec Lionel Ruffel. Je vais vous le présenter. Je pense que la plupart d'entre vous le connaissez déjà, mais quand même, je vais au moins indiquer qu'il est le professeur de littérature comparée et de création littéraire à l'Université Paris 8, donc Vincennes. Saint-Denis. Il est membre de l'Institut universitaire de France. Actuellement chercheur chercheur Humboldt à l'Université libre de Berlin. Il a aussi été l'autre année avant professeur invité à l'Université de Saint-Andrews. Il est à Montréal, donc ici, pour participer au colloque sur les narrations contemporaines. Et c'est pour ça qu'en fait, qu'on a décidé de commencer ce colloque avec son livre sur le contemporain. Alors, il est l'auteur de trois essais, Le dénouement. Paru chez Verdier en 2005, est un essai autour de l'œuvre d'Antoine Volodine. Mais en fait, il y a pas juste Volodine qui est au programme, mais il y a aussi Guyotat, Navarina, Olivier Rolin, même un peu Eschenoz, Jean-Philippe Toussaint, Chevillard, Pascal Quignard. Donc, c'est un livre quand même qui tourne autour d'un imaginaire de la faim traité par la littérature. Donc, en 2005, Le dénouement chez Verdier. Volodine post-exotique chez Cécile Defoux en 2007, de même que chez Verdier, donc en 2016, Brouhaha. On lui doit aussi un collectif que nous, on a beaucoup utilisé à Figura dans le cadre de nos recherches sur le contemporain aussi, qui était Qu'est-ce que le contemporain? Donc le collectif issu d'un colloque, je crois, de 2010, publié chez Cécile Defoux. Et donc, c'est bien le même Lionel Ruffel qui, de Qu'est-ce que le contemporain? Propose une réflexion beaucoup plus large, cette fois-ci qu'un seul, que l'introduction et que la participation à un collectif, mais donc un essai sur les mondes du contemporain intitulé Brouhaha. Je vais vous citer le quatrième de couverture, ça vous donner un peu une idée, parce que la première question que moi je me suis posée en recevant l'ouvrage, c'est mais diantre, pourquoi Brouhaha? Enfin, ça, c'est ma première diantre. Dans ma tête de bon Québécois, diantre revient régulièrement.
Je vais répondre parbleu.
Ouais, il faut à tout prix. Donc, on peut quand même citer le quatrième de couverture. Alors, voici ce que dit, en fait, ce qui est écrit sur le quatrième de couverture. Lorsqu'on entreprend d'enquêter sur le contemporain, c'est une myriade de données, parfois contradictoires, qui s'imposent. Un véritable brouhaha, d'où évidemment le titre. Mais de ce brouhaha, une dynamique se dégage, une dynamique de décentrement, de débordement, de décadrage, instituant un nouvel imaginaire. Alors, évidemment, la première question que je veux lui poser, c'est quel est ce nouvel imaginaire et en quoi est-ce qu'il y a là un imaginaire, en quoi est-il nouveau? Alors, je peux poser la deuxième question tout de suite parce qu'en fait, d'une certaine façon, il y a là un écho. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié de l'ouvrage, notamment, c'est ce rapport au titre. Parce que donc, déjà, brouhaha, on est un peu pris de court en disant, bon, alors que vient faire le brouhaha? Bon, on comprend quand même l'agora, les voix qui se répondent, pas toujours de façon cohérente ou non. Mais moi, ce qui m'a étonné aussi, c'est le sous-titre, qui est les mondes contemporains. Et évidemment, c'est le pluriel des mondes qui m'a, dans un premier temps, interpellé. Et pas juste, en fait, le pluriel des mondes, le fait que ce n'est pas le monde contemporain ou les mondes contemporains, mais bien les mondes du contemporain. Et donc, peut-être que j'aimerais bien comprendre de quelle façon ce rapport-là au monde contemporain, au monde du contemporain, s'articule, bien sûr, dans ce brouhaha de voix qui est ce qu'on reçoit, bien sûr, dans la sphère publique ou encore les espaces publics. On reviendra sur cette question.
D'abord, merci Bertrand de me permettre de parler du livre en introduction de ce colloque. Alors, je peux répondre presque d'un point de vue narratif sur ce qui s'est passé depuis Qu'est-ce que le contemporain ? C'était une question beaucoup plus franche avec probablement l'ambition d'y répondre et d'y répondre en disant quelque chose comme le contemporain c'est ceci ou cela ou le reste et brouhaha, les mondes du contemporain. C'est-à-dire qu'effectivement, au départ, en tant que contemporanéiste, en tant que spécialiste de littérature contemporaine, et même ça mériterait d'être interrogé parce que c'est pas exactement la même chose au Québec et en France. Et je dois dire que la première fois que je suis venu au Québec en tant que jeune doctorant, j'ai découvert une tradition universitaire qui était beaucoup plus ouverte à l'accueil de la littérature contemporaine. Mais dès que je me suis engagé dans la recherche sur la littérature contemporaine, j'ai voulu me poser la question de ce que voulait dire contemporain dans littérature contemporaine, puisque au fond, très vite, je me suis aperçu que les méthodes qu'on employait pour étudier la littérature n'étaient pas forcément adaptées au caractère tout simplement vivant, en devenir, en fabrique du contemporain. Donc, au moment où j'espérais avoir un poste, et puis finalement ça s'est passé, en 2007, je me suis posé cette question parce que je savais que c'est la question que j'allais me poser en candidatant à des postes sur la littérature contemporaine, d'arriver devant des étudiants et de me dire « Bon, mais ok, c'est quoi ? Qu'est-ce que j'entends par littérature contemporaine ?» Il se trouve que probablement, sans le savoir, complètement consciemment, à ce moment-là, l'adjectif contemporain était en train d'un peu de se substantiver. Et on commençait à parler du contemporain. En tout cas, moi, je commençais à en entendre parler. Peut-être d'autres le faisaient précédemment. Hein, mais moi, je commençais à entendre parler du contemporain, non plus de littérature contemporaine, d'art contemporain, de danse contemporaine, etc. etc. Donc, ce moment où on décide de proposer ce colloque, Qu'est-ce que le contemporain ? Je ne savais pas à ce moment-là qu'on était dans la continuité d'autres tentatives hyper plurielles, très très diverses dans le monde. On était déjà les 4 ou 5e ou 6e ou 7e, que sais-je, parce que l'enquête n'est pas exhaustive, à se poser cette question de qu'est-ce que le contemporain ? Et très vite à ce moment-là, il y a eu ce colloque, ce livre dont tu parles. Et je suis arrivé sur mon poste à ce moment-là et j'ai commencé à proposer un séminaire de master qui était « Qu'est-ce que le contemporain ?» puis « Comment penser le contemporain ?» C'est très vite devenu méthodologique parce que très vite, je me suis aperçu que surtout en tant que comparatiste, c'était très compliqué de parvenir à une réponse un peu unifiée sur comment définir le contemporain. Donc, quand on travaille sur des espaces divers et... moi, entre l'Amérique du Nord, les mondes un peu post-coloniaux, etc., déjà, je sentais cette cacophonie sur laquelle je vais revenir et je vais répondre à cette question-là. Mais malgré tout, à ce moment-là, j'ai proposé un projet de recherche qui s'appelait « Archéologie du contemporain », qui, j'avais des petites admirations, je peux même les dire ici, mais il y avait deux livres que j'avais un peu en tête, qui étaient un livre d'un prédécesseur chez Verdier, hein, d'ailleurs, qui s'appelait Modernité, Modernité, d'Henri Méchonic. Ouais. Livre absolument magnifique. Et je m'étais dit, bon, c'est très immodeste de dire ça, mais je me suis dit, mais pourquoi pas écrire quelque chose sur le contemporain qui pourrait être un peu comme Modernité, Modernité de Méchonic. Et il y avait Les origines de la postmodernité de Perry Anderson. Donc il y avait une dimension un peu archéologique. Étant dans cette dimension archéologique, il allait de soi que le postulat, c'était que le contemporain était un concept. C'est pas une donnée en soi, c'était un concept, c'était une idée, c'était un mot, et étant très nourri d'une initiation foucauldienne, je dirais, je l'ai vu comme un complexe de discours très vite, dans lequel je me suis dit, il faut rentrer dans ce complexe de discours et voir qui parle du contemporain, comment, pourquoi. Donc, c'est pas les mondes contemporains ou le monde contemporain, parce que très vite, mon enquête a été, mon désir a été plutôt notionnel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on appelle le contemporain, qu'est-ce que ce contemporain qui se substantive, alors que le mot tout en étant récent dans la langue française, et quand même relativement ancien, et que pendant des siècles, il n'a été employé que comme
Comme
adjectif,
adjectif.
si ce n'est dans l'expression mon contemporain, les contemporains qui, par exemple, Baudelaire,
Mais
hein,
là, la
les...
comparaison devient absolue, parce que normalement, bon, tu reprends cet argument au tout début de Brouhaha, de voir la distinction entre les diverses définitions du
Oui.
contemporain, hein, du même temps que ou en même temps que. Et
Oui.
donc, cet écart entre le du et le en est bel et bien au cœur de diverses conceptions
Oui,
du
oui,
contemporain. Et le fait d'aller graduellement vers un substantif vient. On voit très bien de quelle façon tout à coup vient se sédimenter ou encore se cristalliser une notion.
oui. Oui,
Et j'ai goût de poser la question, mais alors, que vient faire, par exemple, cette conférence publiée en même temps en italien et en français de Giorgio Agamben, qu'est-ce que le contemporain? Parce qu'il y a quand même là un petit livre qui fait à peine une cinquantaine ou une soixantaine
Oh,
de
même pas,
pages, là.
vraiment, il fait
Ouais,
25 pages en gros
ouais,
caractères,
non,
quoi.
ben oui,
Ouais,
dans l'édition, ça, ils étirent ça au-dessus de 50 pages de façon à pouvoir avoir un ISBN. On a bel et bien compris la façon dont ils ont procédé, mais ça va, c'est normal. C'est de se dire, bon, alors, quel rôle vient jouer cette définition, qui est quand même assez étonnante, mais cette définition du contemporain d'Agamben dans ce qu'est-ce que le contemporain et dans ce rapport sur les mondes du contemporain?
Il y a plusieurs manières de répondre à cette question. La manière un peu méthodologique, c'est de dire ce livre d'Agamben se situe dans une série qui a commencé avant lui et qui s'est poursuivie après lui. Donc il est une réponse, il est un exemplaire de cette enquête globale qui commence en Argentine, qui se poursuit jusqu'à l'Inde et l'Asie et qui pose cette question en diverses langues. Donc il a une position singulière parce que c'est une star de la philosophie mondiale, parce qu'il a un côté très assertif et très mystérieux par ailleurs, qui a eu, à mon avis, en France, moi j'aime beaucoup ce livre, même si je le critique, non, mais il a eu un côté peut-être un peu contre-productif, en tout cas en France, parce que son côté assertif et presque mystérieux sur la définition du contemporain, le contemporain c'est l'obscurité, c'est mais voilà,
D'inactuel.
l'inactuel, le contemporain c'est l'inactuel, l'obscurité, on ne peut pas être... En fait, j'ai remarqué que dans les discours sur le contemporain, en tout cas en France, ça faisait partie de ces phrases sidérantes derrière lesquelles on se réfugiait sans se permettre une enquête. En même temps, le texte est peut-être plus complexe que ça. Il se situe par ailleurs dans une tradition 19e française, très clair, qui va de Stendhal à Baudelaire, et qui se poursuit disons, en absolutisant les notions dans un rôle, dans une dimension négative, dans laquelle moi, personnellement, je ne me reconnais pas, mais ce que j'ai voulu, c'est l'inclure dans une série d'interrogations dont il n'est qu'une pièce. Et au fond, ce qui est intéressant, y compris dans cette interrogation, c'est de voir que ces différentes réponses, elles participent d'un même temps et qu'aucune vraiment ne s'impose. Puisqu'au fond, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, j'ai appelé ce livre Brouhaha. Je dois dire même que l'idée, c'était une discussion avec mon frère. Je disais, bon, je comprends plus rien à tout ça, j'entends tout, je suis comme une station d'écoute face à ce brouhaha. Il m'a dit, bah, voilà, tu as le titre de ton livre et il suffit maintenant de le conceptualiser. J'ai suivi son conseil, quoi. Non, mais en fait, c'est pas totalement anecdotique, c'est que je lui disais exactement ce que je ressentais face à ça. Et ce brouhaha n'est pas uniquement un magma ou un chaos, je pense qu'il dit des choses sur notre temps, parce que simplement, il y a une chose que je n'étais pas répondu à ta première question, c'est que il y a quand même dans cette substantivisation du contemporain un phénomène à remarquer, c'est que seul notre temps utilise ce mot pour se
Ah, tout à
définir. C'est
fait.
quand même là la différence. Voilà.
Quand ça
Donc,
s'est imposé depuis quoi, une quinzaine d'années
voilà, voilà.
au
Alors,
plus?
on peut faire plusieurs généalogies en fonction des lieux. Il se trouve que la substantivation, elle a, voilà, une dizaine, une quinzaine
Non, au
d'années vraiment
maximum.
donc, et je crois quand même, alors ça, c'est la formation peut-être littéraire que nous partageons beaucoup ici, y compris linguistique, que l'usage des mots n'est jamais totalement innocent. Et donc, en ce cas-là, il fallait quand même interroger le mot un ensemble de populations diverses choisissait pour s'autodéfinir. Voilà. Donc voilà, après, il y a une enquête un peu lexicale.
Il y a quand même une expression, un terme, tu parles du poids des mots, il y a un mot que tu viens d'utiliser en parlant entre autres du brouhaha, c'est l'idée de la station d'écoute. Alors la notion de station joue un rôle très important dans ton essai parce que chacun des chapitres est décrit comme une station.
Oui.
Et donc en même temps, ce qui est fascinant, juste pour faire, en fait, là, je me réponds tout en n'ayant pas encore tout à fait posé la question. Ce que je trouve tout à fait fascinant dans ton interrogation, dans ton essai, c'est le fait que, oui, tu es un comparatiste, mais en fait, tu ne fais pas que réfléchir à la littérature. Tu as aussi une réflexion qui implique, oui, la philosophie, mais aussi les arts contemporains. Donc, vraiment, tu circules d'un univers à l'autre et tu arrives, en fait, à faire la synthèse de diverses conceptions du contemporain et des pratiques artistiques contemporaines. Donc, dans ce sens-là, il y a un certain éclectisme chez toi qui fait en sorte que tu arrives à négocier ce rapport entre littérature et art. Et dans ce sens-là, ça permet une très grande ouverture. D'ailleurs, si on regarde les stations donc, que tu as choisies, alors, on se balade, en fait, le Centro de Expresiones de Rosario en Argentine, Beaubourg à Paris, le programme de doctorat en sciences, en histoire de la conscience de Santa Cruz, donc de UC Santa Cruz,
Où tu as été
où j'ai
étudiant.
été étudiant, l'Université de Birmingham, dans le cadre, entre autres, du Center for the Contemporary Cultural Studies, Santiago de Chili, etc. En fait, ce qui est fascinant de ton essai, c'est que chacune des interrogations, chacune de ces citations, en fait, commence avec un lieu précis. Donc, on est très d'emblée, on est et spatialement et temporellement ancré dans une définition, dans une pratique, dans un milieu très précis. Et en même temps, je me dis, tiens, c'est quand même tout à fait fascinant parce que on parle du contemporain qui est un imaginaire, disons-le comme ça, qui se définit d'abord et avant tout par le temps. Et on aurait pu se dire, mais alors pourquoi ça ne sont pas 6 temps? Pourquoi 6 stations? Alors pourquoi? Donc, reprendre sur le mode d'une métaphore d'abord et avant tout spatiale, on pense aux stations de pèlerinage, aux stations de métro, tu viens de l'utiliser pour une station d'écoute, donc bel et bien cet espace où on écoute. Alors, pourquoi servir d'une métaphore spatiale pour rendre compte d'une notion essentiellement temporelle?
Oui. Je crois je me souviens pas de tête de ce passage de Foucault que je cite à la fin du livre où il dit combien la représentation temporelle est avant tout une représentation spatiale. C'est-à-dire que effectivement, mais c'est pas la meilleure manière d'y répondre. Je crois que la meilleure manière d'y répondre, c'est que face à ce brouhaha, ce qui m'a importé, c'était de trouver une forme qui soit honnête avec mon objet ou éthiquement juste avec mon objet. Alors là aussi, c'est pas très modeste de le dire comme ça. Et cette forme éthiquement juste, elle n'a pas été facile à trouver. Certains amis, dont certains présents ici, m'ont aidé à y réfléchir à cette forme. Et je voulais partir des singularités, partir des singularités et partir d'une matérialité de la création d'un concept, de la co-création et de la coexistence d'un concept. Et donc, je voulais partir des lieux parce que très vite, une interrogation ontologique sur le temps aurait probablement replié sur le concept mes propres tendances ou ma propre vision du concept. Et donc, je voulais absolument partir des lieux et partir d'expériences concrètes, partir de lieux et d'expériences concrètes qui avaient permis que s'élabore globalement, puisque finalement, il y a dans cette même logique, il y a quand même la logique de la globalisation d'une dispute, en fait, de la globalisation d'un débat, globalisation qui va de l'Amérique latine à l'Inde, à l'Europe, etc. Et je voulais rendre compte de ça. Donc la question de la localisation était totalement essentielle dans ce cas-là. En même temps, ces stations sont des stations qui sont à la fois ancrées, hein, je veux dire, ça part en Argentine, ça passe à Rouen, ça va à Venise, c'est très situé, mais elles sont aussi des stations un peu conceptuelles puisqu'elles sont autour de grands
De grands thèmes, ouais.
mots, couvertures ou concepts, donc l'exposition, la publication, l'archéologie,
Les
les
médias,
médias, et
l'externalisation,
voilà.
la
Je
controverse.
dois dire que j'ai énormément à éliminer. Enfin, je disais tout à l'heure des personnes ici, mais Jean-Max avait lu une première version il y avait beaucoup plus de choses. Et tous les gens qui l'ont lu avant m'ont dit il faut parvenir à retrouver une économie du livre. Donc, il y a aussi cette contrainte de faire un objet à un moment qui oblige à trouver une forme, mais de réfléchir formellement à être au plus près de son objet. Voilà. Donc, c'est un peu ce qui a motivé cette forme de l'enquête localisée.
Mais quand même, ce qui est bien, c'est le fait que on reste pas cantonné dans une réflexion sur le temps, par
Ah
exemple.
oui.
On n'est pas en train de refaire du Paul Ricoeur. On n'est pas en train de s'inscrire dans une narrativisation, encore dans une histoire linéaire d'une notion. Donc, dans ce sens-là, j'aime bien le fait qu'il y ait question d'une notion qui est essentiellement une notion temporelle, mais tu ne la traites pas en fonction du temps, tu la traites plutôt en fonction des espaces et des lieux. Tu la traites aussi en fonction de ce rapport à l'écoute et à l'ouïe, l'idée de la parole, du brouhaha. Donc, on est là aussi, c'est-à-dire il y a une série de métaphores liées à l'espace-temps, une autre série liée à la parole, à l'écoute et donc évidemment à l'énonciation. Et en même temps, il y a aussi toute une autre série de réflexions autour de la question de l'imagination, de la construction des mondes. Pour moi, l'idée des mondes du contemporain, c'est aussi la notion, pour moi, de monde. Je l'entends souvent comme ben, les mondes fictionnels. Donc, c'est une espèce de stéréotype de la pensée théorique. On va penser aux mondes fictionnels. Donc, ces mondes qui sont d'abord et avant tout des constructions d'esprit. Donc, d'abord dans une conception totalement constructiviste d'une réalité qui est une réalité purement de la perception. Donc, dans ce sens-là, tu croises constamment comment dire, tu ne respectes pas les lignes, tu les croises ou encore tu les enjambes. Et ça donne en fait des réflexions qui sont beaucoup plus ouvertes dans ce sens-là.
Mais si je peux dire quand même quelque chose là-dessus, c'est que d'un point de vue un peu épistémologique, je pense que l'importation de l'objet ou des artefacts contemporains dans le cadre de la réflexion n'est pas l'addition d'un nouvel objet dans un même cadre. Ça déforme un cadre. Ça déforme un cadre. C'est-à-dire que l'arrivée de l'objet littérature contemporaine, par exemple, dans le cadre des études littéraires, altère le cadre des études littéraires. Donc, ce que je voulais faire, c'était être relativement homogène dans mes approches, disons, un peu d'études culturelles, disons-le comme ça. Je parle assez peu de politique, je parle assez peu d'autres. Enfin, il y a une dimension politique, mais j'en parle pas directement dans le livre. Mais de trouver un cadre épistémologique accueillant et qui n'est pas forcément celui des études littéraires, des études médiatiques ou de l'histoire de l'art, etc., où les choses se croisent parce que de toute façon, elles sont logiquement reliées.
Elles essaient de penser la même chose de toute
Exactement, elles
façon,
essaient de penser la même
donc
chose,
ça
sauf
fait.
qu'elles ne peuvent plus être complètement reliées au cadre épistémologique, disons, moderne, voilà, disons-le, puisqu'on n'a pas dit ce mot encore,
On peut parler du postmoderne, si tu
voilà,
veux.
du cadre épistémologique moderne du savoir. Mais, non, mais sur la question, sur les deux formes de mise en réseau et de cartographie ont été très importantes dans ma réflexion, l'une comme l'autre, au tout départ de la réflexion, parce que c'est un livre qui intervient après 3 ou 4 ans de travail. La question de la cartographie était très importante. Je voulais justement, dans un travail préparatoire, cartographier les imaginaires du contemporain ou les représentations du contemporain dans les mondes qui m'apparaissaient. C'est pas exhaustif. Très vite, j'ai abandonné l'idée d'une exhaustivité. Et à partir du moment où cette cartographie s'est mise en place, il y a quand même une légère structure temporelle dans le livre qui est quand même une structure chronologique sur le moment d'apparition de la question qu'est-ce que le contemporain, c'est-à-dire que je suis cette question dans différents pays et chaque fois qu'elle est posée, et à partir de là, j'essaie de tisser un réseau avec une logique qui était la logique du montage, et là aussi, c'était réfléchi, c'était de me dire que la logique du montage était une logique qui n'était pas en soi moderne. C'est-à-dire qu'elle ne réfléchissait pas sur des logiques de linéarité, de successivité, de rationalité, mais au contraire de rencontres entre l'hétérogène, en étant un peu inspiré par Didier Huberman, là, je dois dire. Et donc, il y a à la fois une logique légèrement chronologique de cartographie et de mise en réseau à partir d'amplification de l'écoute à partir d'un premier lieu. Voilà, c'est les stations se sont composées de cette manière-là, je dirais poétiquement, au sens aristotélicien, pas au sens de la poésie, mais au sens de la construction du livre.
Revenons à la question du temps. Bon, tu viens un peu de l'invoquer, c'est-à-dire par le biais de cette chronologie quand même assez. En fait, on progresse, mais en même temps, on fait des retours en arrière, c'est pas une progression qui se veut tout à fait linéaire, mais justement, la conception du temps à laquelle que tu mets de l'avant n'est pas une conception du temps qui est linéaire, qui respecte une chronologie. Et il y a une notion, moi, à la page 25, que j'ai trouvée tout à fait fascinante, c'est celle du compagnonnage, de penser le temps en fonction du compagnonnage. Et je te lis à la page, page 25, ensuite page 29, parce qu'il y a un complément de la réflexion sur le compagnonnage là. Donc, composer un monde commun nécessite un certain compagnonnage du temps. Le compagnonnage du temps compose le monde commun. Et il y a une logique qui se dégage avec le temps, avec les temps ensemble. La conception de l'histoire travaillée par le contemporain conteste aussi l'historicité moderne fondée, elle, sur une séparation, une séquentialité, une successivité. Et la suite, il s'agit de comprendre le contemporain comme la levée, la suspension de la représentation du temps comme flèche. Il renoue avec ce qu'est le temps, hétérogène, mélangé, que ce soit sur le plan des subjectivités et des collectivités. En fait, j'aimerais t'entendre un peu plus sur ces très belles phrases, sur cette idée du compagnonnage, qui a l'air d'être tout à fait s'inscrire dans une réflexion de Michel de Certeaux, par exemple, sur...
Alors, de toute façon, au départ, il y a cette interrogation lexicale, c'est-à-dire que veut dire contemporain et que veut dire le cum avec, et est-ce que ça veut dire avec le temps présent, ce qui peut être une définition de contemporain, c'est-à-dire juste cette adhésion au temps présent, ou assez vite, ce qui m'est apparu dans les réflexions que j'observe, parce que finalement, j'ai beaucoup plus édité, composé moi-même ce que j'ai trouvé ailleurs, que produit une pensée très claire sur la chose. Mais la vision qui revenait le plus souvent dans les discours théoriques, mais dans les pratiques artistiques aussi, c'était l'idée d'une assemblée des temps. Des temps pris ensemble, contemporains comme les temps ensemble. Ce qui voulait dire une représentation du temps qui n'était plus totalement cette représentation moderne. Il se trouve que dans la représentation collective par un terme, on passe quand même de moderne à contemporain. Donc qu'est-ce que veut dire ce passage lexical de moderne à contemporain? Donc il faut analyser assez précisément. Alors là, il y a des textes qui aident sur la modernité. Il y a le texte de Yaos qui est très très important et qui dit exactement le temps moderne, c'est un temps qui établit une frontière. Qui établit une frontière entre l'avant et l'après, qui établit une frontière entre des mondes, qui établit... C'est le temps frontière, le temps moderne. Et dans ce que j'observais, moi, je voyais des temps sédimentés, des temps coexistants qui rompaient. Alors, je crois que c'est pour ça que j'utilise l'idée de suspension d'une hypothèse. C'est-à-dire que la grande différence, peut-être, qu'on peut observer aujourd'hui, c'est que ces temps pris ensemble, ce sont des conceptions du temps qui sont pris ensemble. C'est-à-dire que l'hégémonie d'une représentation du temps qui a marqué... les imaginaires pendant plusieurs siècles, mais qui était vraiment une question imaginaire. C'est-à-dire qu'il y avait une hégémonie, mais il y avait quand même des temps non-hégémoniques aussi. C'est-à-dire que quand on dit la France moderne du 19e siècle, ouais, mais il y a plein de paysans, il y a plein de gens qui vivent en dehors de... et qui sont complètement niés dans la représentation de la modernité. Il me semble que ce qui caractérise d'un point de vue temporel la représentation du temps dans le mot contemporain, c'est la coexistence de représentations différentes du temps, ce qui fait que la flèche du temps, alors ça je l'emprunte à Latour, hein, c'est dans Nous n'avons jamais été modernes, un texte déjà ancien, hein, mais remarquable, la flèche du temps n'est qu'une des potentialités des représentations du temps. Il y en a d'autres, elle n'en est qu'une actualisation.
Voilà. Elle est totalement hégémonique par contre.
Elle n'est pas si hégémonique, c'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui elle l'est beaucoup moins parce que la participation au débat sur l'identité collective est beaucoup plus diverse et elle est beaucoup plus représentée. Et donc, cette assemblée des temps, elle est aussi une assemblée des collectivités humaines qui participent au présent.
En fait, ce rapport à cette... très clairement, à cette complexité du temps présent. Oui. Donc, on peut pas... Évidemment, l'idée de la flèche et de la ligne vient simplifier ce rapport au temps que nous avons, tout comme la montre et les aiguilles qui tournent. Il y a une simplification d'une très grande force symbolique, ceci dit, une simplification d'une réalité qui, elle, est d'une complexité tout à fait importante. Et on pense à des effets, de, que ce soit de l'ordre du ressentiment, de la revenance. Tu sais, donc, il y a quand même énormément de manifestations de cette tension, quand même, du temps. Et il y a quand même, je pense, la dernière station, moi, qui m'a beaucoup intéressé, donc, sur les six stations qui sont développées, la dernière tourne autour d'une archéologie du présent. Donc, la notion même d'une archéologie qui vient quand même bel et bien nous dire, voilà une interrogation, une discipline ou alors un regard, si on n'est pas tout à fait dans la discipline archéologique, au moins dans un regard, qui nous dit que alors, nous pouvons retrouver des traces du passé au présent, nous pouvons manifester au présent des relents de formes passées. Alors, j'ai goût de t'entendre un peu plus sur cette idée de l'archéologie du présent et d'une certaine façon de voir de quelle façon est-ce qu'elle se lie à une autre des sections, une autre des stations qui, elle, tourne autour de la notion de postmodernité. Parce que quand tu rentres dans cette discussion sur la postmodernité, tu reprends le débat américain qui a eu lieu autour de, notamment, bon, oui, Lyotard et Habermas, mais surtout la façon dont un certain nombre de chercheurs établis à ce moment-là sur la côte ouest, ont pensé ce rapport-là à la modernité, à la postmodernité, notamment des gens comme Frederick Jameson, Donna Haraway et les autres, autour donc d'un organisé en fait autour d'un programme de doctorat qui était le History of Consciousness Program, donc le programme d'une histoire de la conscience. Bon, pour avoir été là une année, moi, j'étais fasciné par, mais comment peut-on faire l'histoire d'une conscience? Comment la conscience peut-elle être... Quelles sont les traces matérielles, concrètes d'une conscience? Bon, alors, avec cette idée d'une histoire de la conscience, il me semble que cette notion d'une archéologie du présent semble tout à fait logique et une conséquence directe. Donc, quels sont les liens? Comment se définit cette archéologie du présent, d'une part? Et comment est-ce qu'elle permet de retracer, si tant est que ce soit possible, une histoire de la conscience?
Alors, sur la question, sur la question de l'archéologie, là, je ne suis pas d'une très grande originalité. Je pense vraiment que le mot archéologie est devenu un mot, je le dis dans le livre, un mot totem. Mmh. De la littérature et des représentations contemporaines, les écrivains archéologues, les artistes archéologues, les historiens archéologues, etc.
Donc, l'archéologie des médias.
L'archéologie des médias qui a remplacé pratiquement les media studies. Ouais, media archaeology est en train de prendre le pas sur les media studies, ce qui est quand même étonnant, mais qui peut tout à fait se justifier à mon avis. Et donc, avec la même méthode, j'ai essayé de comprendre pourquoi l'archéologie supplanter l'histoire en tant que forme d'interrogation des représentations humaines. Et une fois, d'abord j'ai lu un livre qui m'a beaucoup passionné, qui est un livre magnifique d'un archéologue français qui s'appelle Laurent Olivier, qui s'appelle, mince, j'oublie le nom du livre.
De l'abîme du temps.
Ouais, attends, alors, je suis légèrement jet-lagué encore, hein, donc j'ai un peu de... le sombre abîme du temps.
Le sombre abîme du temps.
Et on l'avait invité à Paris 8, au moment où moi, je menais mon petit projet de recherche. Et il avait eu cette image très très simple. Il disait, bon, mais de toute façon, l'archéologie, c'est pas du tout l'idée qu'on recherche le passé. Dans l'archéologie, on ne recherche que le présent. C'est-à-dire que si, par exemple, il nous avait pris cette image en disant, bon, imaginons, il y a une catastrophe, notre pièce s'écroule, et il y a une recherche archéologique qui se fait sur les vestiges de notre moment présent. Tous ces vestiges, il y aura des temporalités différentes. Par exemple, il avait pris l'exemple des pièces de monnaie. Alors, c'est moins le cas aujourd'hui, mais avant, il pouvait y avoir 15 ou 20 ans d'écart entre des pièces de monnaie. Donc, elles ne peuvent pas attester d'un moment présent. Elles ne peuvent attester que de leur transformation, d'un moment passé, de leur transformation par le présent. Et donc, de leur métabolisation par le présent. Parallèlement, je me suis aperçu que dans le champ théorique, l'œuvre de Walter Benjamin était devenue, là aussi, un peu totem. Or, Walter Benjamin avait vraiment opposé ce qu'il appelait l'historicisme, c'est-à-dire l'idée que l'histoire est un processus linéaire de transformation et d'évolution, à une archéologie des temps qui conçoit les temps comme sédimentés et en constante métabolisation. Donc, tout ça faisait quand même assez sens pris ensemble et, à mon avis, contemporain de la désignation par le contemporain. C'est-à-dire qu'en même temps que le mot contemporain s'impose, la représentation archéologique du temps s'impose.
Aussi,
Et donc, il y a un lien très, très, très fort entre les deux.
Notamment parce qu'en fait, elle parle de deux temps constamment, oui. Non pas d'un temps qui avancerait, comme l'histoire oui. peut, semble le faire, oui. mais plutôt par la force des choses. Au présent, nous recherchons, oui. Dans un lieu donné, des traces, quelles qu'elles soient, d'un passé. Et donc là, le système d'une double temporalité à l'œuvre vient, complexifier tout mais le rapport au temps.
C'est ça. Quant à la question sur le postmoderne, il se trouve que au départ, j'avais pas tellement envie de traiter cette question. Et c'est un de mes interlocuteurs qui m'a dit il faut quand même que tu fasses le point sur cette question du postmoderne, en quoi le contemporain est différent du postmoderne, pourquoi on change de... Donc j'ai souhaité le faire et j'ai souhaité le faire un peu de la même manière que j'avais fait le reste, c'est-à-dire en revenant sur l'origine d'un débat, en montrant par ailleurs que ce débat avait été renarrativisé a posteriori, mais que si on revenait aux années 80, au moment où il se déroule, c'était pas exactement Jamison qui emportait le morceau, mais c'était plus Spivak et Harvey qui proposaient des modèles totalement différents, qui étaient plus proches du modèle du brouhaha, dans lequel j'inscris ma réflexion, que du modèle de la représentation relativement linéaire que garde le postmoderne, qui est un après quelque chose, donc qui reste complètement attaché à une représentation moderne du temps. Ouais. Voilà.
On a quand même ce lien entre, juste dans les préfixes, très clairement, on va du post au cum.
Oui.
On voit très bien comment l'un inscrit une linéarité, on est dans l'après, l'époque moderne, dans le postmoderne, versus on est dans le en même temps que le compagnonnage, la liaison, le lien entre les temps. Et dans ce sens-là, on a changé de paradigme. Ce qui est fascinant de... Parce que très clairement, on peut dire, les études, tout le postmodernisme, c'est comme un peu dissipé pour réapparaître dans le camp des études contemporaines. Simplement qu'on a changé le paradigme encadrant. On n'est plus dans une temporalité qui cherche à imposer malgré tout une ligne et une progression, mais bel et bien dans quelque chose qui se dit, c'est le maintenant. Tu fais aussi référence au présentisme tel que Hartog et les autres en parlent. Et très clairement, on voit bien comment le présent devient un temps... devient un temps en pleine explosion et qui gomme le passé et le présent. Et on voit très bien qu'en même temps, ce qui se défait, ce sont les liens simples, les liens temporels simples.
Mais alors, par rapport au présentisme, je dois dire que même si ce livre m'a beaucoup fasciné quand je l'ai lu, et puis c'est quelqu'un de très impressionnant, hein, François
Hartog. Donc, d'historicité de François Hartog.
Ma conception du contemporain, enfin celle que je propose ici, je ne la qualifie pas du tout de présentiste. Et donc, même je le dis très clairement, qu'il ne s'agit pas de reprendre le modèle présentiste, qui est un modèle, comment dire, de mise à plat. C'est-à-dire, c'est un modèle, il prend l'image, je crois qu'il faut toujours être attentif aux images, il prend l'image de l'eau plate, dans laquelle il n'y a plus aucun... mouvement, alors que le contemporain, dans l'image que je propose, ça serait plutôt celle du magma et puis du brouhaha et de la tempête, quoi. Hein. Donc, je pense que cette réflexion sur le présentisme dit quelque chose d'important. Elle est complètement liée au modèle dans lequel est François Hartog, qui est un modèle historique. Historique et par ailleurs complètement européen. Il y a aussi là, c'est franco, c'est gallo-centré et un peu différemment, mais c'est quand même gallo-centré et moi j'ai voulu m'extraire de ça. Voilà.
Ouais. Peut-être une dernière question et après on peut prendre des questions de la salle. Il y en a déjà une, mais d'autres personnes peuvent aussi poser une question. En fait, j'ai le goût de revenir sur ce que tu décris comme étant une notion centrale du contemporain, et c'est cette idée de la publication. Et je te cite, donc page 92, un des concepts clés du contemporain, comme la littérature a pu être un des concepts clés de la modernité, c'est la publication. Alors peut-être que j'aimerais t'entendre sur qu'est-ce que tu entends par publication, qui je crois ne renvoie pas nécessairement au terme tel que dans le monde de l'édition on le connaît. Qu'est-ce que la publication et comment la publication s'oppose en fait à la notion même de littérature?
Alors, là aussi, il faut revenir aux généalogies du travail. En fait, ce concept de publication s'est élaboré sur plusieurs années, notamment à partir d'un travail qu'on a fait avec ma collègue Olivia Rosenthal sur la littérature exposée, auquel a participé Jean-Max aussi et plusieurs autres collègues. Le constat était relativement simple, c'était de se dire que dans l'économie générale de la littérature, le livre n'occupe plus une place aussi importante qu'il a eu occupé. Les performances, la littérature sur scène, les réseaux, le numérique, etc., contestent le modèle attaché au modèle du livre. Mais une fois qu'on avait dit ça, moi, je ne voulais pas en rester à ça. Je voulais savoir un peu ce que ça disait. Et très vite, je me suis aperçu que la littérature était elle-même non pas une donnée naturelle, mais un concept historiquement situé, qui a été un concept si emblématique justement de la modernité que dans nos esprits, on l'a reçu comme étant naturel. Mais si on parlait du XVIe siècle tout à l'heure, les livres occupaient une place relativement réduite dans l'économie du littéraire, encore plus au XVIIe. Il y a cette phrase de Madame de Staël qui dit « Le salon détient le monopole de la première publication ». Donc, comme par ailleurs, je m'intéressais aux espaces publics, d'un point de vue un peu politique, aux sphères publiques, au rapport entre espace public et sphère publique, tout d'un coup, j'ai vu un peu de la publication partout, y compris parce que j'ai lu une étude alors, qui me semble un peu farfelue, mais c'est pas impossible, qui disait que ces 10 dernières années, si on considère le processus d'autorité comme celui de publier un texte, il y a eu plus d'auteurs ces 10 dernières années que dans toute l'histoire de l'humanité. Bon, je ne sais pas sur quoi ça s'appuie véritablement. Enfin,
C'est l'imaginaire de la fin
voilà,
du livre.
Voilà. Bon, qu'il y a eu. Alors, évidemment, je ne sais pas sur quoi ça s'appuie. Il faudrait se poser la question de ce que c'est l'autorité, etc. Mais enfin, quand même, il se trouve qu'on est dans une phase qui n'est même pas une phase d'alphabétisation, mais une phase d'alphabétisation des processus de publication. Or, ce passage de l'expression privée à l'expression publique, de l'espace privé à l'espace public, me semble absolument déterminant pour comprendre ce qui se passe. Ouais. Voilà. Et pas uniquement d'un point de vue littéraire, d'un point de vue littéraire aussi, mais pas uniquement d'un point de vue littéraire. Donc la publication est un concept relativement large qui s'interroge. Ce serait plus, pour reprendre la traduction de Habermas en anglais, de public sphere, mais de publishing sphere. Ouais. Hein, c'est-à-dire, c'est plus la sphère publique idéale de la démocratie, etc., mais cette sphère de l'acte de publication.
Bah, voilà. En fait, quand tu opposes la sphère publique et les espaces publics, je pense que la notion de publication, ici, on en parle aussi en termes d'éditorialisation, va tout à fait dans le sens d'un travail, d'une littérature non pas vécue comme institution, mais vécue comme d'abord et avant tout comme pratique, comme expérience. Mm. Et dans ce sens-là, on voit très bien comment l'idée de la publication va dans le sens, évidemment, d'une ouverture à la littérature comme expérience qui vient, d'une certaine façon, réduire toute la question de l'édition et du monde littéraire et des institutions à une partie congrue de l'ensemble des expériences littéraires que, notamment, le web permet. Mm. Et on retrouve cette idée d'un rapport symbolique extraordinairement positif qui est littéraire, dans tous ces espaces qui existent, qui n'ont plus rien à voir avec l'institutionnalisation de la littérature telle qu'on la connaît, on l'a connue au 20e siècle, au 19e, mais au 20e d'une façon, au 20e siècle d'une façon vraiment marquée.
Mmh. Oui, alors ça, c'est juste pour quelque chose. Quand tu lisais la quatrième de couverture et que dans la quatrième couverture, il est affirmé qu'une même logique se dégage, et peut-être vous en doutez, après tout ce que j'ai dit, qu'une même logique se dégage, mais c'est celle-là exactement, ça serait de dire, dans toutes les stations, tous les objets, ou les hyper-objets, disons, que j'ai essayé d'étudier, cette logique, c'est la fin, ou disons la suspension d'une représentation hégémonique au profit d'une pluralité de représentations qui sont coexistantes et parfois conflictuelles. Donc si on prend la littérature, c'est le fait que l'industrie du livre, qui se porte hyper bien par ailleurs, hein, c'est-à-dire que ça ne conteste pas le fait que l'industrie du livre se porte bien. Elle se porte bien, il n'y a jamais eu autant de livres vendus, elle est différente, mais elle ne se porte très bien, mais elle est contestée par d'autres imaginaires du littéraire. Voilà, c'est ça la même logique. Voilà.
Enfin, moi qui travaille beaucoup dernièrement sur l'imaginaire de la fin du livre, c'est clair que oui, la littérature se porte bien, mais elle sent cette menace qu'elle a complètement intériorisée. On entend constamment parler, ça y est, c'est la fin du livre, le livre sera pair de son territoire au profit des liseuses, et ainsi de suite. Et on voit très bien que ça n'a rien à voir avec la pratique d'une part, parce qu'en termes de nombre, il n'a jamais paru autant de livres, s'est jamais publié autant de livres, d'une part. Et d'autre part, ce qui est fascinant, c'est de voir comment ce que moi je nomme des pratiques illittéraires, donc toutes ces pratiques en marge, apparaissent non pas comme étant un effet justement de cette littérature comme expérience qui est extraordinairement foisonnante, mais ceci est perçu par la littérature comme institution comme étant une menace. Et donc la fin du livre vient du fait que les pratiques littéraires sont plus importantes et sont plus dynamiques que la littérature elle-même qui se vit comme institution, qui, elle, en fait, ben, repose sur son socle et est très contente d'être sur des blocs de pierre. Et donc, on voit très bien cette tension-là apparaître, mais moi, c'est ce que j'essaie de formuler dans ce rapport à l'imaginaire de la fin du livre, c'est-à-dire le lien entre les pratiques marginales qui sont extraordinairement foisonnantes et qui apparaissent comme des menaces à une littérature qui elle-même se dit menacée de toutes parts. Et qui dit donc le livre est menacé, quand le livre n'est pas du tout menacé, c'est un effet total, c'est un effet de surface. Est-ce que des questions? Johnny Rogers a une question.
Oui, bon, alors, si je ne me trompe pas, Bertrand, le contemporain, tu l'as introduit comme une chose nouvelle. Mais si, comme tu dis, Lionel, il n'y a pas de flèche du temps, et si il n'y a pas de séquence, le contemporain, c'est une attitude vers le temps, alors cette idée du contemporain comme une chose nouvelle, c'est pas possible. Jacques Derrida, il a écrit du contretemps qu'on trouve en Shakespeare, en Roméo et Juliette, entre Roméo et Juliette, le contretemps. Et ça se trouve aussi en King Lear et partout, en effet, en Shakespeare. On peut considérer cet contretemps comme une figure de contemporanéité, alors. Selon toi.
Alors, c'est très bien que tu poses cette question parce que depuis que je entamais des études sur le contemporain, c'est-à-dire même dans le dénouement, l'idée c'était d'éviter la question du nouveau, de considérer que le nouveau, alors c'est pas du tout pour disqualifier ce que tu as dit,
Ah non, moi
Bertrand.
je citais ton quatrième de couverture, hein, ben c'est pas moi qui disais qu'il y avait là un nouvel
Alors,
imaginaire, au contraire.
voilà. Alors, c'est-à-dire que ce nouvel imaginaire est un nouvel imaginaire inclusif. C'est pas un nouvel imaginaire de, comme on dit dans la politique néolibérale aujourd'hui, de disruption. Donc, c'est un imaginaire qui intègre les autres imaginaires. Et ce débat, c'est un débat que j'ai en ce moment avec un groupe aussi de philosophes qui est, disons, entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne, qui sont des néo-futuristes, en fait, je pourrais dire, les accélérationnistes, qui sortent d'ailleurs un livre en ce moment en allemand, et un numéro de revue en anglais sur le post-contemporary. Et effectivement, la catégorie de post-contemporary peut pas être incluse dans la représentation que je fais du contemporain, mais cette représentation que je fais du contemporain, c'est la représentation que je donne du contemporain. Je ne dis pas que c'est le contemporain, mais effectivement, la question de l'après ou du nouveau ne peuvent pas être structurantes dans cette représentation du temps. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et en ce sens-là, le dénouement, en fait, c'était pour dire, donc une certaine logique dans ce parcours, hein, c'était le début et la fin ensemble. Un dénouement, en fait, c'est la collusion du début et de la fin. Et c'était quand même ce livre, Le Dénouement, inspiré par le spectre de Marx de Derrida, qui citait The time is out of joint. Donc, voilà.
En fait,
Donc, finalement,
tu
il y
veux
a,
en
y
être.
a, ouais, donc, il y a une logique à ça, quoi.
Est-ce qu'il y a d'autres questions à Lionel?
Sur le post-contemporain.
Du coup, voilà, c'est comment toi tu entends en quelque sorte l'idée du post-contemporain, puisque tu dis, bon, je peux pas l'inclure, mais alors comment, voilà, comment tu le.
Alors, quand même, il faut quand même que je dise ce que ça veut dire, parce que je pense que ils sont, aucun d'entre eux, que ce soit Souheil Malik ou les accélérationnistes, etc., ne sont vraiment satisfaits par cette notion de contemporain. Et d'ailleurs, en allemand, ils appellent ça der Zeitkomplex, le complexe temporel, et qui Zeitkomplex traduit exactement contemporain, par ailleurs. Donc c'est très bizarre, parce que le titre et le sous-titre du livre s'opposent. Bon, ben, je ne vais pas rentrer dans des questions lexicales, mais pour dire ce qu'il postule par là, en fait, et c'est quelque chose qui fera écho à ce que je t'entends dire, Bertrand, depuis plusieurs années, hein, c'est qu'en fait, la temporalité déterminante est le futur. La temporalité déterminante depuis, disons, l'emprise des technologies et du capitalisme avancé est le futur, et ils prennent plusieurs cas, donc un qui t'est cher, puisque c'est celui de Minority Report, ou avec la police préemptive, ouais. Hein, mais qui est ce dont on parlait, je crois, hier, alors maintenant je suis un peu perdu, mais sur la question que quand on tape, ah non, ce matin, que quand tu tapes une recherche dans Google, ça finit ta recherche avant que tu l'aies tapé, donc que l'algorithme, et donc ce futur qui est un futur potentiel, donc fictionnel, ils appellent ça hyperstition, c'est un futur potentiel qui, de fait, va produire un présent actuel, qui va actualiser un présent qui, sans cette potentialité du futur, n'aurait pas existé. Et donc, qu'on est à nouveau dans une forme de... Alors ça, ils ne le disent pas comme ça, mais qu'on est dans un futurisme, mais très concret. Alors, ils ont beaucoup travaillé sur la finance aussi, comme tu sais, et donc, effectivement, j'ai toujours pas compris ce que c'était la finance à haute fréquence, mais la finance à haute fréquence, ouais, c'est le fait de parier sur des valeurs, l'évolution de valeurs pour gagner de l'argent sur le présent, mais du coup, cette évolution de valeurs n'aura pas lieu, puisque dans le présent, on va le modifier. Donc, bon, je n'ai pas bien compris, mais... Ouais, voilà, c'est tellement rapide que... Et donc, c'est quand même des théories très, très, très intéressantes. Hein. Leur approche n'est pas du tout la mienne, en ce sens qu'ils veulent donner des conséquences politiques à cette réflexion, en disant, maintenant qu'on sait que les forces capitalistiques utilisent le futur pour influencer le présent... accélérons nous-mêmes pour donner nos propres potentialités à cela. C'est très intéressant, c'est un débat auquel je me prépare. Armen est un copain, et c'est un débat, et je crois qu'il apprécie mon livre, moi j'apprécie le sien. Voilà, on n'est pas sur le même plan. Je dois dire que si j'avais découvert ça avant, j'en aurais sûrement rendu compte dans Brouhaha. Bon, voilà, il se trouve que c'est le... Pour le coup, parfois, le temps s'arrête quand même. Vraiment, c'est le temps d'écriture s'arrête. Et on ne peut pas rendre compte de ce... Là, il y a un côté où le futur n'a pas préacté ce que j'allais dire après, quoi.
Il n'y a pas un logiciel d'autocomplétion, ouais, dans ça, ton voilà, livre, voilà. Écrit la dernière station.
Ce qui est très passionnant, c'est que ça fait maintenant... depuis 2012 ou 2013, je crois que le manifeste accélérationniste, c'était 2013... il y a eu énormément de choses qui se sont faites entre le Royaume-Uni et l'Allemagne sur ces questions du présent. Leur postulat est de dire le présent n'existe plus. En fait, voilà, il n'existe plus. De toute façon, il est préempté par le futur, donc il n'existe pas. Et on vit dans un temps, par ailleurs, complètement fictionnel et qui fait disparaître le présent. Je trouve ça très intéressant. Je trouve ça pas si contradictoire que ça avec ce que je propose. Mais...
Écoutez, comme il est rendu maintenant 7h30, c'est le temps, puisque le temps, nous sommes dans un imaginaire du temps, c'est le temps de s'arrêter, donc j'aimerais te remercier pour cet entretien, je vous remercie aussi d'avoir été là pour nous écouter, et puis demain matin, nous recommençons à 9h moins quart.
Ok, c'est moi qui vous remercie.
Merci.